France Musique. Musique et moi.
Pierre Ducreuset.
Priscille Lafitte, France Musique.
June met la main dans la terre et elle comprend pourquoi. Il faut être rentré une fois là-dedans pour savoir. À l'extérieur, on le pressent, dedans, on le comprend. Il faut sentir sur soi la pâte méthodique, le grand venin, il faut sentir l'écrasement, la puissance du ver qui vous submerge, l'admiration et l'horreur, pour comprendre ce qu'a senti l'homme. Tout, finalement, découle de ce sentiment de terreur qui submerge l'homo sapiens devant la nature qui tout à coup le dépasse, qu'il ne comprend plus. Pris de rage et d'effroi, il se met à détruire. Il fait ça. Il domine, assiège et contrôle pour ne plus avoir peur, pour oublier qu'il n'est rien. Lentement, il effacera ce sentiment et pensera qu'il est tout. Les mains dans la terre et la tête dans le vomissement, June comprend cela. L'origine de tous les maux. Finalement, les femmes et les hommes n'ont eu de cesse d'explorer de nouveaux territoires, de plonger dans les forêts, les mers, les montagnes et les plaines, tout ce qui les dépassait pour réduire l'ensemble en esclavage. Au début, peut-être par curiosité, par appétit du prochain paysage, puis vite par goût du pouvoir, par ennui, par peur. Comment ne pas être terrorisé, pense-t-elle, par ce ciel de branchages, cette noire perspective, ce battement infini. L'invincible mythe de la jungle, de Bornéo à l'Amazonie, est né ainsi.
Bonjour Pierre Ducrozet.
Bonjour.
Merci d'être là ce matin sur France Musique pour livrer quelques-uns de vos émois musicaux. Si on a débuté cette émission en trombe avec la chevauchée des Valkyries de Wagner, ici une version orchestrale par l'Orchestre Philharmonique de Berlin dirigée par Klaus Tennstedt, c'est que la fresque de votre roman, Le Grand Vertige, paru chez Actes Sud, se lit un peu comme une tétralogie. Elle est d'ailleurs organisée en 4 mouvements. Et vos personnages sont à la recherche de l'or du Rhin. Ce n'est pas qu'une métaphore. Il est beaucoup question de pétrole dans ce roman. Vous décrivez la course effrénée qu'a constituée l'ère industrielle, une course au rythme des découvertes, de l'enrichissement, du progrès, jusqu'à déboucher sur l'impasse de notre humanité. Vous auriez pu écrire un opéra, en somme, Pierre Ducrozet.
Oui, ça aurait été possible. C'est vrai que je conçois les romans un peu comme des, c'est un peu prétentieux, mais comme des symphonies ou des mouvements musicaux. C'est pour ça que mes parties, effectivement, s'appellent des mouvements. En tout cas, je les compose comme ça, comme des ensembles constitués de sous-ensembles qui chacun ont leur couleur, leur tonalité, et le tout forme effectivement une tentative de globalité. Alors, il y a plein de choses, ouais, chez Wagner, là, qui me...
C'est la fureur du monde, chez Wagner,
ouais,
il y a ça?
Ouais, il y a ça, ouais, la fureur, la gloire, une sorte de d'épique, un peu, il y a une sorte de, on entend l'épopée, là, on entend l'épopée de la condition humaine, et aussi le côté, peut-être presque absurde et presque burlesque de cette pompe aussi, enfin, de ce côté grandiose. Enfin, moi, ce que j'entends, là, c'est quelque chose de vraiment de très puissant, et en même temps, qui pourrait se retourner et dire voilà, cette grande épopée humaine est aussi quelque chose de vain. Enfin, on entend les deux. Il y a une sorte de, il chante un peu là, je sais pas, la majestuosité du monde, aussi de la nature. On entend des oiseaux parfois, hein, moi j'entends ça. Et on entend la guerre, on entend le fracas, on entend le tumulte. Donc c'est un petit peu l'histoire aussi de ce livre et puis l'histoire de notre modernité. C'est-à-dire, ce qui s'est passé dans les 100, 150 dernières années, comment l'assimiler, qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là à un état, disons, du monde plutôt un monde qu'on a un petit peu foutu en l'air. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a dans cette épopée humaine qui est à la fois, effectivement, grandiose et tragique?
Mais votre musique intérieure, Pierre Ducrozet, vos premiers repères musicaux sont viennois, sont mozartiens.
Oui.
C'est bien ça?
Oui, c'est ça, oui. Il y a deux côtés. En fait, il y a le côté de ma mère, effectivement, qui elle est de Graz, donc en Autriche, et après à Vienne. Et moi, quand j'allais souvent à Vienne voir mes grands-parents et voir la famille de ma mère, avec ma mère et mon frère et mon père, on écoutait. Pour moi, c'est très associé à Mozart, effectivement, dans ce Vienne là, des calèches et de la neige. Il y a beaucoup d'opéra. Il y a beaucoup de mon grand-père était un grand fan de musique classique et en particulier de Mozart, qui sonnait tout le temps dans cette maison là du centre-ville, et moi c'est quelque chose qui, voilà, c'est Mozart, c'est ma mère et cette Autriche là de cette enfance qui est en plus liée à à des hivers, à Noël, enfin il y a quelque chose de très comme ça
rassurant.
Ouais, et puis Mozart a tout de suite été comme ça synonyme aussi de grand plaisir, du plaisir de la musique, de l'air, de la mélodie, la virtuosité de Mozart. C'était pour moi un grand éclat de rire, enfin ça a toujours été pour moi Mozart, c'est ça, c'est le bonheur de créer, d'être en vie, en fait. Voilà. Et de l'autre côté, effectivement, de mon père, qui lui est musicien et chanteur, et donc depuis 40 ans on accompagne ça, on a accompagné aussi ça avec mon frère en chantant sur les albums de mon père. Donc il y avait les deux courants, voilà, il nous a nourri de plein de musique, dont la sienne. Donc ces deux courants là ont fait que voilà, qu'on a nagé très tôt dans la musique.
Pierre Ducrozet, on parlait de la fureur chez Wagner un peu plus tôt. Est-ce que l'ordre du monde, tel qu'il transparaît dans l'écriture de Mozart, vous parle également ? Est-ce que cette inventivité dans la régularité, dans le cadre classique, peut se transposer dans la littérature ?
Oui, ça me parle énormément. J'aime sa manière d'embrasser tous les genres, d'être ici et là, d'aller très vite d'un endroit à l'autre, d'être virtuose dans absolument tout ce qu'il fait. Donc il y a une sorte de, pour moi, d'éthique en littérature, du mélange, évidemment de la musicalité à tout prix. C'est-à-dire que il est tellement dans chaque chose qu'il fait que tout sonne, quoi. Il n'y a pas un détail qui est mis de côté. Voilà, il y a un côté que moi dans le roman je reconnais d'hétérogénéité tout en étant toujours lui-même, quoi. Et donc de tenter, en tout cas dans l'espace du roman, de circuler librement. Enfin là, ce qu'on vient d'entendre, c'est la beauté incarnée dans chaque mouvement. Enfin moi, ça m'aime beaucoup. Ça m'a presque, l'intérêt ou la passion pour Mozart a presque phagocyté pour moi un peu le reste de la musique classique, parce que je trouve tellement tout là-dedans que le reste a parfois, en comparaison, m'intéresse moins. Il y a une sorte d'astre là, comme ça, et tout, parce qu'on peut passer sa vie à explorer Mozart, c'est sans fin, quoi. C'est un continent. Alors évidemment, tout le reste est passionnant aussi, c'est pas ce que je veux dire, mais malgré tout, il y a quelque chose là une des plus belles choses que l'esprit humain ait pu créer.
On écoutait là le 20e concerto pour piano en ré mineur de Mozart, sous les doigts de Martha Argerich. Pierre Ducrozet, à quel moment est-ce que vous avez pris conscience de l'urgence de la question environnementale, puisqu'il en est beaucoup question dans ce roman? À quel moment de votre vie?
Ouais, ça a été progressif, parce que, comme tout le monde, on savait un peu ce qui se passait, mais il y a il y a peut-être 5 ans, il y a un choc plus précis de rentrer vraiment, de vraiment saisir ce qui se passe. Non, parfois on a des ralentissements cognitifs, on sait, mais en fait, jusqu'à ce que vraiment on saisisse, et c'est ça qui a déclenché un intérêt plus prononcé, et puis l'écriture de ce livre, qui était naturel, c'est de se dire, voilà, le choc de comprendre ce qui s'est passé et ce vers quoi on se dirige. Donc, oui, c'est un petit peu ce que décrit au début Adam Tobias du livre, c'est une sorte de grand choc, je crois, dans l'histoire aussi, on va en avoir pour plusieurs années pour l'assimiler, ce choc-là, d'une espèce ayant réussi par l'entremise d'un système économique et à l'intérieur de ce système de 150 ans, ou 100 ans, disons, d'histoire, à la destruction d'un monde, puisque même si je pense pas qu'il va y avoir un effondrement total, ça, mais malgré tout, il y a quelque chose qui se finit, et autre chose, je pense, qui va renaître de ça. Donc se remettre de ce choc, ça va prendre aussi des années, et c'est un moment aussi d'étourdissement qui fait qu'on sait pas trop, on est un peu abasourdi, en fait, quoi. Et justement, ce sentiment-là est mêlé à l'urgence d'agir vite. Donc, ça m'a donné, en fait, en tout cas, l'envie aussi d'attaquer par le roman ces thèmes-là à travers des personnages, voir ce qu'on pourrait imaginer, en fait.
Vous parlez du personnage Adam Tobias, qui est le personnage central de votre roman Le Grand Vertige, et qui, en quelque sorte, porte un poids, essaye de le rendre un peu plus léger. Pierre Ducrozet, quand est-ce que les Beatles ont traversé la rue et sont entrés dans votre vie?
Pareil, par l'entremise des parents assez tôt en voyage ou dans la voiture. Et tout de suite, une sorte de même aussi... amour inconditionnel comme pour Mozart, que d'ailleurs je rapprocherai assez facilement. Pour moi, il n'y a pas de haut et de bas, ni en musique, ni ailleurs. Et donc, pour moi, c'est les Beatles qui réalisent, c'est un peu les Bachs du 20e siècle. Et il y a un truc encore de mélange des genres, de virtuosité, voilà, la musique populaire arrive à quelque chose là de vertigineusement beau. Et moi, voilà, j'ai l'impression que c'est la pièce centrale du 20e siècle en musique et que je tourne autour d'un mystère là-dessus, là, autour des Beatles, que j'arrive toujours pas à... Mais j'écoute les albums et j'arrive toujours pas à le cerner.
Une de vos entrées, je crois, dans les mots, dans la littérature en tout cas, c'est la poésie. Vous y recherchez quoi ? Un rythme ? Une musicalité des mots ?
Ouais, en premier lieu, c'était ça. C'est quand j'ai découvert Baudelaire, Rimbaud...
Vous aviez quel âge ?
Verlaine, je sais pas, je pense à 14, 15 ans, on va pas dire plus tôt parce que ce serait prétentieux. Il y a bien des poèmes qui traînent, mais vraiment quand on le saisit, enfin quand on saisit rien en fait, mais
on s'en saisit.
Voilà, ouais, exact, plutôt, c'est ça. Donc à l'adolescence, quoi. Il y a vraiment quelque chose de là, vraiment très proche de, enfin c'est la musique, c'est la même chose. C'est par des sons, des couleurs qui adviennent, des rythmes, des choses qui vous transportent. Et d'ailleurs, les poèmes qui plus me touchent le plus, je ne les comprends pas, mais je sens quelque chose qui est derrière, quoi. Comme tout ce qu'on vient d'entendre, finalement, je pourrais pas dire que je comprends, mais il y a quelque chose qui traverse mon corps et qui me fait comprendre ou aimer encore plus le monde, en fait. C'est un peu ça.
Vous avez demandé à ce qu'on écoute un nocturne de Chopin, de Frédéric Chopin. Vous entendez dans Chopin du romantisme à l'état pur, une musicalité de la phrase?
Ouais.
Ça se rapproche de la poésie pour vous ?
Ouais. En tout cas, là, je m'en souviens très, très précisément de découvrir Baudelaire et Rimbaud en particulier en écoutant ça. Je crois que c'était parce qu'il y avait une lecture d'un comédien sur les nocturnes de Chopin et ça me semblait vraiment marcher main dans la main alors que les époques sont très légèrement différentes. Enfin, ils arrivent les deux poètes après Chopin, mais il y avait quelque chose d'une marche nocturne ensemble, on a l'impression de Baudelaire incarné dans une... Et puis, c'est tout simplement une chose absolument parfaite, ce nocturne-là, en particulier. Là encore, des sensations de couleur, de neige, de beauté, en fait. Ouais.
Je vous propose qu'on écoute ce nocturne, opus 9, numéro 2, sous les doigts de Vladimir Horowitz, et que votre voix à vous, Pierre Ducrozet, nous lise quelques vers d'Arthur Rimbaud.
L'étoile a pleuré rose au cœur de tes oreilles. L'infini roulé blanc de ta nuque à tes reins. La mer a perlé rousse à tes mâmes vermeilles. Et l'homme saigné noir à tes flancs souverains. Thank you.
Pierre Ducrozet, vous faites des lectures musicales de votre roman Le Grand Vertige, ça vous arrive?
J'en ai fait des précédents livres, justement celui-là, non, pour reprendre un petit souffle à nouveau, mais j'en ai fait effectivement sur autour de mon livre autour de Basquiat, et puis le dernier, L'invention des corps. J'aime bien non seulement lire sur scène, incarner le texte, mais effectivement le mêler de musique.
Quel type de musique vous choisissez à ce moment-là?
En fonction de la forme du livre, en fonction de ce qu'il veut dire, par exemple sur Heroica, donc il parlait du peintre Basquiat, on avait imaginé toute une... c'était plus de la musique électronique et aussi il y avait du jazz et du rock, mais en tout cas c'était une sorte de playlist de cette époque. Et l'invention des corps, c'était une heure de création au piano. À partir des mots avait surgi cette composition-là au piano. L'idée c'est étant...
Vous au piano ?
Non, un ami musicien qui crée à partir de ça. L'idée étant que d'arriver à cet idéal, c'est ce que j'entendais là dans Chopin, c'était d'arriver à cet idéal, n'importe quel écrivain vous dirait ça, je pense, de cet idéal de dire sans dire, en fait, de dire sans mots. Enfin, ce que fait là magistralement Chopin, c'est que 100 000 choses de l'existence humaine sans avoir besoin de quasiment de... On est presque hors langage, même si on est dans un autre type de langage. Mais en tout cas, je crois que c'est le rêve de l'écrivain d'arriver enfin à dire sans devoir dire, en fait. Et la musique étant me passionnant, évidemment, mais en plus, elle me passionne en plus aussi en la mêlant à ce que je, voilà, à ce que je sais faire, enfin, ce que j'essaie de faire, c'est les mots. Mais ce que j'aimerais idéalement faire, c'est la musique, parce que ce serait les mots sans les mots.
Parce que votre père, vous nous le disiez, écrit des chansons. Est-ce que vous aussi, vous écrivez en vers? Est-ce que vous écrivez des chansons?
J'en ai écrit beaucoup, effectivement. Et puis, non, ça fait quelques temps que j'en fais moins. J'en ai écrit pour lui, avec lui. Et puis, moi, de mon côté, que j'ai pu soit chanter, soit...
Donc, vous continuez à chanter?
Oui, vraiment, sans aucune... Enfin, en total amateur. Mais pour le pur plaisir de lancer la voix. J'ai joué du violon quand j'étais petit, pendant des années. Sans suite, parce que c'était un peu trop exigeant, je crois, à ce moment-là, pour moi. Et puis, un peu de guitare, mais sans vraiment aucune prétention. Mais j'aime ça, oui.
Et qu'est-ce que ça change dans l'écriture que quand vous écrivez un roman ou quand vous écrivez comme ça des chansons?
Eh ben, c'est la même tentative, en fait, de lancer une voix, de lancer un mouvement, de lancer, de scander quelque chose.
Donc, vous scandez votre texte quand vous l'écrivez, quand vous écrivez?
Alors, il n'est pas nécessaire de le dire à haute voix, mais en tout cas, c'est la petite voix intérieure qui, quand même, c'est la seule chose qui m'intéresse, c'est comment ça va avancer, le rythme que va prendre la phrase, le paragraphe, la page. Pour ça, il y avait, pour moi, toujours Kerouac qui en parle le mieux, qui lui voulait vraiment souffler dans son saxophone comme Lester Young. Et c'est vraiment ça aussi. Cette idée de souffler et de voir où ça nous emmène, quelle va être la texture de ce son-là par les mots.
On parlait à l'instant de Lester Young. On écoute All of Me avec Billie Holiday et on en parle juste après.
All of me, why you see, I'm no good without you. Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the best, so why not take the rest?
All of Me, Billie Holiday, Lester Young, c'est un enregistrement de 1941.
France Musique,
Priscille Lafitte, Musique et moi.
On disait un peu plus tôt, Pierre Ducrozet, que votre livre s'organise en mouvements, comme des mouvements de symphonie. On peut aussi parcourir votre livre comme une série de télé. Il y a des épisodes, des saisons un peu. On suit des personnages qui poursuivent obstinément, au prix de leur propre corps, parfois une grande visée, celle de sauver l'humanité. Et vous brassez le trivial et la grande histoire dans ce roman, dans le grand vertige. Vous avez choisi cette musique « All of Me », prenez tout ce qu'il y a de moi. C'est quoi ce tout? Parce que vous voyez beaucoup question de corps aussi. Mm-hmm. Vous vous interrogez souvent sur le rapport au corps dans ce roman.
Mm-hmm. Dans le cas de Billie Holiday, il y a vraiment de prendre tout, c'est-à-dire à la fois cette joyeuse mélancolie qu'on entend là, le meilleur et le pire, quoi. C'est ce qui est si beau en elle, c'est que c'est toujours sur ce fil-là. De quelque chose de profondément triste et en même temps de profondément allègre. Il y a sur les corps, ce que vous dites, et voilà, c'est un bon exemple. Billie Holiday, c'est quelque chose qui traverse les corps et qui va au-delà, en fait, de corps de Billie Holiday, une sorte d'épicentre de quelque chose de plus qu'elle, en fait. Pareil pour Mozart, pareil pour les Beatles, pareil pour, je sais pas, Joy Division ou plein. Il y a des moments comme ça précis où il y a des corps qui sont traversés par une force, en fait, qui les dépasse et qui disent une époque, qui disent un sentiment, qui disent quelque chose de plus grand qu'eux. Et ça m'intéresse dans les personnages. En quoi qu'est-ce qui se passe dans leur corps? Qu'est-ce qui dépasse ces corps et qu'est-ce qui les travaille comme problématiques contemporaines? Enfin, là, dans le livre, c'est l'élan contre le désespoir, enfin, contre une lucidité, l'envie et les obstacles. Enfin, voilà, c'est en quoi ils sont représentatifs et des épicentres de force.
C'est une musique de la légèreté pour vous? C'est une musique de l'intérieur ou de l'extérieur? Je vous parle d'intérieur et d'extérieur parce qu'il y a de longs moments d'enfermement dans ce roman Le Grand Vertige où le monde n'avance plus. Et l'extérieur correspond dans ce roman à l'action, ouais. Furieusement.
L'idée, c'était que les deux soient mêlés, que c'était l'idée du corps dans le monde, du corps de ces personnages là mêlés dans le monde, et qu'au bout d'un moment l'intérieur et l'extérieur ne fait plus qu'un, et notre grand défi qui va être de retrouver un extérieur, de retrouver un monde, comment l'habiter. Eh bien, ça se joue dans nos corps aussi. Et c'est pour ça qu'on peut, parfois, ces corps-là, justement, de ces personnages sont un peu troués, un peu bancals, un peu, parce que, comme le personnage de Nathan, à force d'être baigner dans le monde vivant et dans les plantes, il commence à être contaminé par quelque chose qui ne va plus, quelque chose qui tombe. Donc, ça va passer par nos propres corps aussi, la transformation. Il va falloir retrouver un corps multiple, un corps pluriel, un corps, faire des alliances avec le monde vivant, notamment. Donc, il n'y a pas d'extérieur et d'extérieur, c'est une seule et même chose.
Toutes ces dernières années, vous m'avez dit, sont réunies dans une chanson. Pour vous, dans une chanson de Sufjan Stevens, Death with Dignity. Pourquoi ça?
Oui, parce que vous savez, comme quand il y a des périodes de temps, qu'elles soient une semaine ou des années, qui sont concassées dans une chanson. Bon, voilà, ça c'est cet album, depuis qu'il est sorti, ça doit faire 5 ans. C'est vrai qu'il m'accompagne partout. Et je l'ai découvert, on était en Indonésie en train de voyager, et depuis il est là. Ça, c'est des choses qui ne peuvent pas s'expliquer, ça capte quelque chose de vous et du moment dans lequel vous habitez, des lieux aussi. C'est très souvent lié aux lieux. J'ai passé 3 semaines à New York une fois, et bien c'est une chanson très précise. Bon, là, ces années-là, ces 2, 3, 4 dernières années sont dans cette chanson.
Dans quel lieu?
Alors c'est Barcelone principalement, mais
c'est là où vous habitez
aujourd'hui. Là où j'habite, ouais. Mais sinon, il y a eu aussi ces voyages en Asie. Voilà, y a, c'est une alliance de Barcelone, le lieu où j'habite, et puis de voyages en Amérique du Sud ou en Asie.
Silence, I can hear you, but I'm afraid to be near you, and I don't know where to begin, and I don't know where to begin. Somewhere in the desert, there's a forest and an acre before us, but I don't know where to begin, but I don't know where to begin. Again, I lost my strength completely. Oh, be near me, tired old mare, with the wind in your hair. Amethyst and flowers on the table. Is it real or a fable? Well, I suppose a friend is a friend, and we all know how this will end. Chimney swift that finds me, be my keeper. Silhouette of a cedar, what is that song you sing for the dead? What is that song you sing for the dead? I see the signal searchlight strike me in the window of my room. Well, I got nothing to prove. Well, I got nothing to prove.
Death with Dignity de Sufjan Stevens. On écoutait les paroles de cette chanson qui dit à un moment « Somewhere in the desert, there's a forest ». Et c'est précisément ce qui se passe à la fin de votre roman. Enfin, du moins, c'est le but recherché par votre personnage principal. Vous recherchez, vous aussi, ce moment où du désert va sortir une forêt?
Oui, oui, c'est ce que... C'est ce que réussit si bien la Sufjan Stevens, c'est de trouver cet équilibre entre la gravité et la légèreté, entre le désert et la forêt, oui, entre le, c'est ce que font les personnages de ce livre, entre, voilà, se débattre contre tous ces obstacles et d'être dans cette espèce d'assèchement, d'appauvrissement du sol, pour parler du désert par exemple, et de ça, voir de quoi on va, qu'est-ce qui va pouvoir renaître. Donc effectivement, la dernière partie, le dernier mouvement du livre, c'est on est dans le désert, là où tout a commencé, là où les premiers sapiens sont apparus en Afrique de l'Est, et là, et dans cet univers hostile, fait de pierre et de chaleur, qu'est-ce qu'on peut trouver, comment on peut se réorganiser ensemble, comment on peut retisser des alliances avec le monde, avec les animaux, ils sont dans cette problématique là. Évidemment, c'est compliqué, mais il y a c'est ce qu'on disait tout au début, c'est cette double chose de la condition humaine, de toujours naviguer entre tomber et se relever, quoi. Et donc ils y vont. Moi, j'ai tenté ces personnages là, je les ai esquissés de cette manière là, qu'ils soient traversés par ces deux courants.
Death with Dignity, c'est le nom de ce morceau, et la mort frôle aussi plusieurs de vos personnages.
Oui, alors c'est il faut aussi, on peut pas écrire sans parler de ce qui tombe, de la mort, c'est ça qui donne et du relief aussi à nos existences et aux personnages. C'est ce qui fait la beauté de cet album-là, c'est qu'il fait que parler de mort, de malade. Il parle beaucoup de sa mère, hein, c'est une sorte de tombeau pour sa mère. Et en même temps, c'est l'impression d'entendre un soleil comme ça. C'est d'une presque d'une légèreté, d'une douceur, d'une beauté, en parlant de choses graves. Et on sent que Sufjan Stevens, donc petit génie de la jeune génie de la musique américaine, arrive à trouver un accord entre ses démons et sa lumière. Et c'est ce que c'est ce qu'on essaye aussi de faire par les mots. Si on peut pas faire l'un sans l'autre. Enfin, il y a pas de gravité sans légèreté.
On parle un peu plus tôt de Mozart sous sa forme concertante. Mmh. Je propose qu'on écoute maintenant, enfin, c'est vous qui m'avez suggéré qu'on écoute aussi le Requiem de Mozart. Donc, le Mozart qui condense l'humanité sous cette forme religieuse, mais ça va plus loin que juste le religieux. On va écouter le Tuba Mirum de ce Requiem. C'est une description du jugement dernier.
Thank you.
Le Tuba Mirum et Rex Tremende du Requiem de Mozart. Philippe Hervaig à la tête de l'Orchestre des Champs-Élysées, le chœur de la Chapelle Royale et le Collégium Vocal de Gand. Avec les solistes Sibylla Rubens, Annette Markert, Jan Bostridge et Hanno Müller-Brackmann.
France Musique.
Priscille Lafitte. Musique et moi.
Ce Rex Tremende qui dit « Roi dont la majesté est redoutable, toi qui sauves par grâce, sauve-moi aux sources de miséricorde ». Et dans votre roman, Pierre Ducrozet, Adam Tobias est une figure de sauveur, de Rex. Tout le monde se tourne vers lui pour essayer de trouver une solution.
Oui, ce qui est à la fois pratique et dangereux, disons, quand on s'en réfère à un sauveur, c'est jamais complètement bon signe. Donc il est à la fois, en fait, il est la personne indiquée parce qu'il a suivi toutes les étapes de la lutte environnementale, il a été là à chaque fois, donc on va le chercher pour une sorte de barreau d'honneur comme ça, 40 ans après ses débuts, parce qu'on sait qu'il sait et qu'il a une vision. Effectivement, il a une vision, il propose une autre chose qui est ce réseau télémaque de voyageurs qui est censé trouver une autre manière d'habiter le monde. Donc il a une vision, mais sans référer à une seule personne, c'est se mettre aussi à la merci de l'humain trop humain, quoi. Et donc cet homme a peut-être aussi trop fait, il incarne peut-être aussi un monde qui a aussi failli par certains à certains égards, qui est un peu impatient, qui est un peu en bout de course aussi. Donc voilà, c'est aussi la question du livre. Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il s'est trop isolé? Est-ce qu'il a perdu patience? On le voit pas tellement, hein. Il est comme un fantôme, on le voit pas. On le devine dans le livre, c'est une sorte de figure un peu tutélaire. Mais je pense qu'il a conscience qu'il est aussi temps de passer le relais, peut-être, à la génération d'après.
Dans le milieu musical, Pierre Ducrozet, une réflexion est menée ces derniers temps sur les rapports au monde, sur l'écologie dans cette industrie de la musique, son rapport au voyage surtout. Alors je vous propose qu'on écoute le témoignage d'un chorégraphe, Jérôme Bell, qui partageait sa réflexion sur France Musique le 12 septembre dernier.
C'était en mars 2019, je me rappelle bien. J'étais en train d'ajuster le chauffage de mon appartement à Paris, en regardant les températures qu'il allait faire, le fait que ma fille allait venir, bah, bref, des choses comme ça, et pour économiser l'énergie. Comme. Et au même moment, je me suis rendu compte que dans l'avion de Hong Kong à Paris, il y avait deux de mes assistants qui revenaient de Hong Kong, qui avaient monté un spectacle, et deux autres étaient en train d'embarquer à Roissy pour partir à Lima pour monter un autre spectacle. Et là, j'ai compris que, enfin, j'ai eu le sentiment que ma vie était absurde puisque j'étais en train d'économiser un petit peu sur mon chauffage, alors que j'avais quatre vols intercontinentaux que je ou mon travail, mais c'est la même chose,
provoquait,
et là je suis tombé en dépression, c'est-à-dire il y avait plus de sens, je comprenais plus ma vie, je voyais qu'elle était contradictoire, et donc j'ai passé un mois à un peu plus pouvoir rien faire, à rien comprendre, à être complètement sans ressources, incapable de penser. Vraiment, hein, quelque chose de l'ordre de l'affect, quoi, hein, de l'émotion, et pas du tout. Alors que je suis quelqu'un qui a réfléchi beaucoup, j'étais incapable de remonter. À ce moment-là, une amie très chère, Jeanne Balibar, m'a dit « Bon, voilà, tu appelles ce numéro-là », et c'était un psy, et j'allais voir le psy. Et donc là, elle m'a dit... j'ai raconté ça, ce que je viens de vous raconter. Elle m'a dit « Mais vous êtes mégalomane ». Donc là, j'ai compris que... Bon, il fallait que je... réatterrissent d'une certaine manière et j'ai pris les décisions. J'ai pu réfléchir et je me suis dit, ben voilà, puisque ça me fait tant souffrir, puisque c'est inacceptable maintenant, on va arrêter de prendre l'avion, du moins. Puisque moi, je suis un chorégraphe qui a une reconnaissance internationale et on est invité dans le monde entier. Et c'est principalement ça qui est néfaste à l'environnement, c'est les voyages. Puisque comme on voyage beaucoup, il n'y a pas de décor sur scène, des choses comme ça, parce que sinon on n'avait pas le temps de passer d'une ville à l'autre. Les costumes, ça a toujours été ad minima. On n'a pratiquement rien produit. On se débrouillait. Donc finalement, c'était l'énergie
sur
fossile.
Ce point-là.
Voilà,
qui était avoir
le mien, qui était mon principal problème.
Le chorégraphe Jérôme Bell au micro de Saskia Deville sur France Musique le 12 septembre dernier. Jérôme Bell qui tente donc d'inventer de nouvelles manières de collaborer, de se déplacer. Il dit travailler désormais à partir de partitions, de vidéos. C'est une réflexion que vous avez vous aussi, Pierre Ducrozet, parce que je crois que vous voyagez beaucoup.
Oui, alors il faut évidemment réinventer aussi le voyage. Je pense pas que par contre il faille y renoncer. En tout cas, renoncer au monde, c'est aussi ce que June essaye de faire dans le livre. Ça veut juste dire qu'il faut inventer de nouvelles manières à différents niveaux, arriver à embrasser le territoire sans le détruire. Et je pense par ailleurs que l'avion est une toute petite partie du problème. D'ailleurs, en chiffres, c'est ce qu'on voit. Hein. Le problème est beaucoup plus vaste et bien plus systémique, quoi. Et donc, on est pris, nous, dans nos petites contradictions de citoyens. Et c'est ça qui est ce qu'il dit très bien. Et ça, c'est très intéressant. Comment on est pris entre voilà, ce qu'on a envie de faire du monde et comme le monde nous prend. Mais malgré tout, c'est pas exactement là que ça se passe. Ça se passe au niveau d'un système économique, de sa manière de produire, de l'extractivisme, etc. Donc, c'est là qu'il faut mettre son énergie. Moins dans la chaudière et enfin, il faut moins voyager, moins prendre l'avion, ok. Mais c'est plus le macro que le micro, si vous voulez, les petits gestes.
C'est cet antagonisme-là qui ressort d'ailleurs dans ce livre, Le Converti chez Actes Sud. C'est trouver certes des solutions individuelles, mais surtout se rendre compte de notre impuissance quand la solution est d'abord politique.
Voilà, et on l'a la solution, en tout cas, et elles sont devant nous. Donc ce qui bloque, c'est au niveau, effectivement, de la représentation politique, au niveau de lobby et tout ça, mais c'est là qu'il faut concentrer son énergie. Et on a, pendant quelques temps, été un peu détourné par cette espèce de culpabilité individuelle qui est importante, mais qui doit être un facteur de ensuite changement de l'ensemble du système, et notamment de la démocratie, qui, il y a un truc qui ne fonctionne pas si une population entière est d'accord pour changer, notamment d'énergie par exemple, et qu'il y a quelque chose qui bloque à un moment donné de l'échelon politique.
Je crois que vous avez beaucoup voyagé en Birmanie, en tout cas en Asie.
Oui, en tout cas, ces derniers mois, effectivement, on était en Asie.
Pour quelle raison ?
En particulier, pour la simple raison de voyager, en fait, sans but, j'allais dire.
Vous n'êtes pas missionné comme dans les personnages de votre roman ?
Non, alors, ce qui s'est passé, c'est que, a posteriori, ma chère éditrice m'a dit à raison que... c'est comme si je m'étais auto lancé des missions donc cette année voilà, d'aller voir tel lieu comme un des personnages du livre, et donc je me les fixe moi-même. Par contre, j'ai pas d'Adam Tobias qui me les fixe donc je suis allé voir là-bas.
Alors, vous décrivez les péripéties d'une certaine June, c'est un petit peu vous en fait, dans la jungle birmane. Est-ce que vous pourriez nous en lire un extrait de ce passage-là?
Avec plaisir.
Voilà, on va écouter en fond sonore un enregistrement qui a été fait au bord du lac Inle, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, en Birmanie.
Quand June se relève, elle est recouverte de libellules aux ailes grenats. Elle les vire d'un revers de main et se jette dans le massif devant elle. Elle marche pendant une heure à l'aveugle, écartant broussailles et branches qui s'épaississent à mesure qu'elle pénètre dans les zones plus profondes. Elle ralentit le pas. Si quelqu'un était parvenu à la pister au début, il est impossible qu'il ait pu la suivre jusqu'ici. Elle reprend à peine son souffle quand ses deux pieds atteignent une surface marécageuse que l'obscurité ne lui avait pas permis d'anticiper. Elle saute sur la rive pour éviter que ses chaussures soient avalées. La nuit approche, mais il faut qu'elle avance. Elle sent bien qu'elle s'enfonce dans quelque chose de nouveau. C'est infiniment lent et poisseux. Les minutes s'étirent, se distendent. Il n'y a rien d'autre ici que la stridence des insectes, la torpeur vague et lourde de toutes choses, des palmes, des branches, de l'excès de CO2 dans l'air qui fait tourner la tête, les écorces des troncs sont gorgées d'eau noire, la mousse plie, les bêtes rampent. Tout craque de toutes parts. Tout craque et pourtant se plie. Elle s'enfonce dans une zone âpre et malléable où tout s'intègre et communique, dont elle n'est qu'une excroissance négligeable, tentant malaisément de passer le cours d'eau qui sépare le plateau d'une colline plus mousseuse encore. De la canopée au-dessus d'elle s'écoule un immense murmure. Elle franchit finalement la fange et rejoint l'autre rive.
Paseo, batteuse de jazz, qui a été, elle aussi, happée par les sons de Birmanie, où elle voyage régulièrement. Elle en a tiré cet album, Fable de Shwegadon, dans lequel elle mêle des instruments occidentaux et birmans. C'est une orchestration à double culture. Il y a une fascination et un danger à la fois dans cette jungle birmane. C'est ça que vous avez ressenti ?
Oui, c'est ce que... C'est par l'entremise effectivement de June, c'est ce que j'ai ressenti, c'était l'idée de d'être plongé dans cet ensemble qui est à la fois hostile et vibrant, et d'arriver au bout de cet effroi que connaît l'homme au milieu de cet ensemble qui le dépasse. Et au bout de ça, il y a un accord en fait, mais il faut passer par ce qui pendant des années nous a contraints à brûler, à dominer, etc. C'est parce qu'on a peur en fait. Enfin, c'est ce que fait. C'est l'expérience qu'en fait Dune, en tout cas. On a peur de cette chose-là, et qui nous dépasse. Et au bout de ça, il y a un accord possible. Et on voyage aussi pour ça, pour être écrasé, pour être submergé par les émotions, par les pays, par tout ce qu'on découvre. Mais au bout de ça, il y a un accord.
Vos personnages s'aventurent aussi dans les profondeurs des océans. Ouais. Vous décrivez l'expérience sensorielle mystique de Nathan au large de Shanghai, dans la mer de Chine. Mmh. Et qu'y trouve-t-il ? Il y trouve un vertige, c'est ça le grand vertige ?
Ouais, c'est ça. Il arrive à la fin du grand cercle qu'a tracé le pétrole depuis son extraction jusqu'à son élévation dans l'air, et il retombe les particules de CO2 dans l'océan et finissent leur cycle de destruction. Et lui, Nathan, à ce moment-là, ce qu'il voit, c'est ce grand tout, ce qu'il appelle le grand mouvement de toute chose à tout moment, depuis les coraux aux cellules aux planètes. Et il se sent, lui, pris dans ce tout-là, et en même temps, il est là dans cette eau, et il voit qu'il sait pas faire lien justement avec ce biotope, qu'il est en train encore de l'écraser. Donc il a un grand vertige effectivement de lui pris dans ce grand ensemble et comme séparé aussi de cet ensemble. Et il tombe, il est happé par les fonds et il tombe.
C'est aussi ce que vous recherchez vous dans la littérature, c'est une forme de vertige, de transe, comme la transe d'Anne Paseo.
Ouais, c'est ça, c'est d'être pris dans un flow comme ça, dans une transe. Ouais, j'aime l'écriture des sensations, l'écriture effectivement d'un certain vertige, un tremblement, un peu un dérèglement aussi des sens, comme disait Rimbaud. Et donc moi, c'est ça c'est quand ça vibre et quand les corps des personnages notamment sont en éruption, j'allais dire. Donc c'est pour ça que là je suis rentré par la porte de la poésie et que la porte de la musique est la même finalement. C'est celle de ces sensations là.
Est-ce que vous avez déjà entendu le chant des baleines, Pierre Ducrozet ?
Oui, pas exactement celui-là, mais c'était des requins-baleines, disons. Mais oui, j'ai entendu quelque chose.
Voici ce que John Cage, lui, entend. C'est une litanie pour baleines.
Thank you.
Le romancier Pierre Ducrozet est l'invité de Musique et moi ce matin pour son livre Le Grand Vertige, paru aux éditions Actes Sud. Vous aussi, vous êtes en mouvement comme vos personnages de roman. Vous poursuivez votre route. Vers quoi vous acheminez-vous, ne serait-ce qu'au niveau de l'écriture?
Ah, c'est bien difficile à savoir. En tout cas, je cherche. Enfin, j'ai des sortes de lignes de fuite, quoi, vers lesquelles petit à petit on veut aller. Mais si je savais ce que je cherchais exactement, peut-être que je ne chercherais plus. Il y a quand même en tout cas une quête d'un rythme, d'une couleur, et puis de cette tentative d'essayer de saisir quelque chose du monde contemporain, de trouver une forme. De trouver une forme qui soit la mienne, qui corresponde, une sorte de travailler l'espace du roman. Me laisser aussi, c'est beau ce chant des baleines, me laisser contaminer, j'allais dire, par les formes, notamment naturelles, mais aussi musicales. Et en quoi on se laisse déborder par d'autres formes artistiques, notamment aussi dans l'espace de sa pratique.
Vous avez demandé à ce qu'on écoute Thelonious Monk, maintenant, Round Midnight. C'est pour le rapport à la nuit, c'est pour l'espace entre les notes, pour ces erreurs qui n'en sont finalement pas.
Ouais, ça c'est bien, ça me plaît. Ouais, l'espace entre les notes. Ouais, un peu à la Hemingway qui laisse des strates de compréhension de l'œuvre. En fait, on a l'impression que Monk, il est bancal, qu'il trébuche. En fait, il invente constamment une autre métrique. Il est dans le son et ces silences-là, ils sont du son aussi. Voilà, il y a une sorte de magicien là qui s'assoit à un piano et qui crée sa métrique, son rythme, son souffle.
Vous avez le droit à l'erreur aussi, vous, dans l'écriture?
Ah oui, il y en a plein, elles font partie du
processus.
Texte et du processus, ouais. Je pense qu'elles sont partie intégrante. C'est comme des fausses notes, effectivement, qui ensuite, je parlais de Kerouac avant, quand on souffle, forcément, il y a des choses qui sortent, qui sont peut-être inattendues ou peut-être pas à leur place, mais ça fait partie du processus.
Thank you.
Thelonious Monk, Red Midnight, c'est un enregistrement de 1954 à Paris. Il est beaucoup question de danse dans votre livre Pierre Ducrozet, particulièrement de danse nocturne dans la nuit. Et vous êtes venu avec cette citation dans votre poche, cette citation de Céline, on n'a plus beaucoup de musique en soi pour faire danser la vie. Est-ce qu'il sera question de mouvement, de danse dans votre prochain livre ?
Oui, parce que c'est finalement ce qui traverse tous mes livres, le corps en mouvement. Et ce qui est amusant, c'est que mon projet, qui est vraiment, voilà, pour l'instant une esquisse, mais j'ai envie de parler de musique dans mon prochain roman, et notamment de l'histoire de la musique au XXe siècle. J'aimerais traverser comme ça le siècle, raconter cette histoire. Qu'est-ce que, enfin, comme un roman, quoi. C'est un grand roman quand même. C'est notamment ce passage-là de l'histoire du XXe siècle. En gros, disons de Debussy jusqu'à Daft Punk et à la musique électro de ce début de 21e siècle. Et en quoi ça meut les corps? Qu'est-ce que ça dit d'une époque? Pourquoi le son d'une époque est-il celui-là et pas celui-là? Ça me passionne tout ça. Et j'aimerais, voilà, continuer cette traversée des corps à travers cet élan de la musique, de la danse, la danse par rapport à la musique, hein, c'est surtout ça. Voilà, ça, c'est ce qui, je crois, va m'occuper à présent parce que ça me passionne.
On va terminer cette émission avec le clair de lune de Debussy, avec celui qui fait vibrer son accordéon comme personne, Richard Galliano.
Thank you.
Merci beaucoup, Pierre Ducrozet, d'être venu nous parler de votre livre Le Grand Vertige.
Merci à vous.
Paru chez Actes Sud. Jean-Louis Deloncle était à la technique et au mixage ce matin. Marie Grou à la réalisation, attachée de production. Marie Ferdinand, bonne journée à vous et la semaine prochaine.
À réécouter sur francemusique.fr.